CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio. CFAQ vous présente le condensé juridique. Un condensé du meilleur des chroniques de vulgarisation juridique présentées par les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit, diffusé dans le show du retour. Le Touski. Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3, l'essence de l'information.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette diffusion d'informations juridiques dans le cadre d'un projet de collaboration entre le Réseau national d'étudiants et étudiantes pro bono et la radio CFAQ. Le but de ce projet est de faciliter l'accès à l'information juridique dans la communauté grâce à la radiodiffusion de plusieurs capsules. Il est toutefois à noter qu'il ne s'agit pas de conseils juridiques pour des situations spécifiques, mais plutôt d'informations générales qui s'adressent à tout le monde. Alors n'hésitez surtout pas à communiquer avec un avocat ou une avocate en cas de besoin.
Aujourd'hui, nous sommes de retour avec des capsules sur le droit du logement et on va discuter des visites et de l'accès au logement. Donc, à partir du moment qu'un locataire remet à son locataire un avis comme quoi il ne va pas renouveler le bail, le locataire a le droit d'afficher le logement en ligne ou dans les journaux, par exemple, comme étant disponible pour location. La même chose peut être faite en cas de résiliation de bail par un locataire. Tant qu'à parler de résiliation du bail, celle-ci peut avoir lieu lorsqu'un locataire ne peut soit plus occuper le logement à cause d'un handicap, soit parce que sa sécurité ou celle de son enfant est menacée par de la violence conjugale ou des agressions à caractère sexuel, soit parce qu'il a été admis dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, plus communément appelé un CHSLD, ou tout autre établissement où lui sont offerts les soins de santé nécessaires à son bien-être. Ça peut aussi être le cas s'il s'est vu attribuer un logement à loyer modique. Donc, dans ces quatre cas, un avis de 2 mois ainsi qu'une attestation d'un tribunal ou d'un organisme compétent mentionnant le motif approprié sont nécessaires pour que le locataire puisse résilier son bail. Une fois l'avis de non-reconduction ou de résiliation donné, le locataire a donc maintenant l'obligation de permettre au propriétaire de faire visiter le logement aux acheteurs ou aux locataires potentiels. Par contre, le locataire doit agir de façon raisonnable, donc de façon à ne pas empêcher la jouissance du logement au locataire, puisque c'est son droit, là. En ayant signé un bail, il a le droit à la pleine jouissance du logement. En ce sens, le propriétaire ne peut donc tout de même pas entrer comme bon lui semble chez un locataire qui lui a transmis un avis de non-reconduction du bail. Le locataire a de son côté l'obligation de demander à son locataire de façon verbale ou écrite au moins 24 heures à l'avance la permission de faire une visite. Les visites se font habituellement entre 9 et 21 heures, à moins d'une entente différente entre le locataire et le locataire. Si le locataire se sent inconfortable que des inconnus visitent son logement sans surveillance, il peut exiger que le propriétaire soit présent lors de la visite. Cela étant dit, le propriétaire peut avoir d'autres raisons de vouloir entrer dans le logement de son locataire en cours de bail. Donc, le fait de possiblement vouloir louer à de nouveaux locataires ou de vouloir vendre l'immeuble ne sont pas les seules raisons auxquelles le propriétaire a droit pour pouvoir entrer dans un logement qui est déjà loué. Premièrement, si le propriétaire veut simplement exercer son droit de vérifier l'état du logement, il a le droit de le faire, encore une fois, avec un préavis d'au moins 24 heures à l'avance. Et la vérification se fera, encore une fois, entre 9 et 21 heures. Si le propriétaire là, insistait pour que ce soit des heures différentes, mais que le locataire n'était pas confortable avec ça, il aurait le droit de refuser. Bien que le propriétaire ait le droit de vérifier l'état de son logement, il ne peut pas non plus le faire de façon abusive, parce que cela constituerait une forme de harcèlement envers le locataire qui pourrait, de son côté, entreprendre un recours contre son locataire devant le tribunal administratif du logement. Deuxièmement, le locataire peut entrer dans le logement de son locataire pour y effectuer des travaux majeurs, tels que, par exemple, des réparations ou améliorations. Dans ce cas, le locataire doit aviser son locataire beaucoup plus que 24 heures à l'avance. Parce que là, il ne s'agit pas là, d'un simplement aller vérifier l'état des lieux ou de faire une petite visite. C'est des visites qui prennent beaucoup plus de temps, autant au locataire qu'au locataire. Donc, le locataire doit plutôt transmettre un avis écrit au locataire au minimum 10 jours avant le premier jour où les travaux commenceront. Par contre, s'il s'agit de travaux qui nécessitent au locataire d'évacuer son logement pour plus d'une semaine, le propriétaire doit aviser son locataire au moins 3 mois à l'avance. Dans le cas où une évacuation du locataire est nécessaire, que celle-ci là, soit, peu importe le nombre de temps, que ce soit une semaine, plus d'une semaine, moins d'une semaine, le locataire doit indemniser son locataire proportionnellement à la période de temps où il doit quitter les lieux. La troisième raison pour laquelle un propriétaire peut avoir accès au logement de son locataire en cours de bail, c'est dans les cas d'urgence. Le propriétaire devrait par contre essayer d'aviser son locataire à l'avance, mais comme on parle ici de cas d'urgence, le locataire pourrait se passer de donner un avis et serait quand même autorisé à entrer dans le logement. Dans des cas très urgents, le propriétaire peut même entrer dans le logement en l'absence du locataire, par exemple pour un dégât d'eau, un incendie ou quoi que ce soit qui sonne vraiment comme une réelle urgence. Le changement de serrure étant un élément déterminant à l'accès au logement pour le locataire et le locateur, tout changement à ce niveau doit être fait avec le consentement des deux parties. Sans quoi cela pourrait mener à restreindre le logement au locataire ou aux locataires et pourrait se rendre jusqu'au tribunal administratif du logement. Sinon, parlons un peu là, de la fameuse pandémie qui est devenue une partie intégrante de notre vie depuis mars 2020. Elle a d'ailleurs changé là, le mode de vie de gens partout à travers le monde et plusieurs normes ont également vu le jour depuis cette fameuse pandémie. On peut par exemple penser au port du masque dans les endroits publics, à la distanciation sociale ou au couvre-feu. Mais qu'en est-il de la pandémie pour les locataires et les locataires? Premièrement, malgré la pandémie, un locataire ne peut pas empêcher ses locataires d'avoir des visites. Bien entendu, si celles-ci se font dans le respect des consignes de la santé publique. Par exemple, un locataire ne pourrait pas empêcher un locataire de recevoir ses soins à domicile sous prétexte Je vais recommencer. Par exemple, un locataire ne pourrait pas empêcher un locataire de recevoir des soins à domicile sous prétexte que la pandémie l'empêche de recevoir quelqu'un chez lui. Par contre, un locataire qui ne respecterait pas les directives de la santé publique s'exposerait à plusieurs recours. Au niveau des visites pour un locataire qui veut louer ou vendre son immeuble, celle-ci reste permise malgré les directives du gouvernement entourant la COVID-19. Bien entendu, ces visites sont limitées par de nouvelles règles prises en conformité avec les recommandations émises par la santé publique au niveau de la pandémie pour assurer la sécurité des visiteurs, du propriétaire et du locataire. Le locataire doit donc demander aux visiteurs au préalable s'il présente des symptômes du coronavirus. Dans l'affirmative, le locataire a l'obligation d'annuler la visite. Outre cela, dans le respect des consignes recommandées par la direction de la santé publique, la pandémie n'est pas une raison pour un locataire de refuser à son locataire l'accès au logement. Dans le cas où un locataire contracte la COVID-19, ce dernier doit en informer son locataire. Le locataire doit par contre respecter le droit à la vie privée de son locataire et ne doit pas divulguer aux autres locataires qu'il y a un cas de COVID dans l'immeuble et de quel locataire il s'agit, à moins que ce dernier n'agisse de façon à compromettre la santé des autres locataires. De plus, si l'immeuble comporte des espaces communs, le locataire infecté ne peut y accéder, comme il doit faire sa quarantaine dans son logement. Donc, si, par exemple, un locataire commençait là, à aller visiter les aires communes, baigner dans la piscine, etc., ça serait un motif là, pour le locataire de divulguer que son locataire a la COVID à ses autres locataires. Donc, c'est tout. Ça conclut notre capsule sur les visites, l'accès au logement et la COVID. Ben, merci beaucoup et on se revoit bientôt. À la prochaine!
Parmi la masse, le cœur en dessous la carapace. J'avance à vitesse d'une tortue. Lentement, mais sûrement. 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 À chaque jour, une nouvelle. Si elle voit qu'elle va aux poubelles. Yeah, j'ai acquis tout ce que je voulais. Y'a des olives dans mon poulet. J'essaie de tout, appelle-moi le commissaire. On veut pas que demain soit comme hier. Tu parles pas français, ouais, ma money, yeah. J'suis en train de sauver la langue de Molière. Complètement, yeah, j'accepte seulement les compliments. Honnêtement, des grignotines, plusieurs condiments. Jeune vétéran, j'suis trop big, mon nom est corpulent. Comme un grand, sur le plateau, je m'en vais l'humain, oh. Rien de moi, puis je veux bientôt. J'suis le king de Sacramento. Sauvignon blanc à l'apéro. Sont odieux, c'est pour ça que j'aime les côtes. Oh Dieu, tu peux juste m'appeler Fouki. Au lieu de dire que tout est promis, vaut mieux travailler comme une fourmi. L'effort il est fourni. Toute ma famille est nourrie. On pleure de joie, on sourit. On s'aime jamais, on s'oublie. J'me cœur mouf parmi la masse. Le cœur tend sous la carapace. J'avance à vitesse d'une tortue. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement.
Me voilà, me voilà, oui. Yes. J'arrive à la ligne d'arrivée. Me voilà, oui. Yes. Toujours le premier arrivé. J'étais comme moi.
La vie, hein? Pauvre Labine. Passe son charcoal. Boum! Bonsoir, il est parti.
Ah, mon livre à moi, un barbecue, t'allumes ça des haules, pas dans ta cave.
Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine.
J'te laisse pas sur ta fin quand j'ai pas.
Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine.
On garde des boulettes dans la salle.
Grignotine, grignotine. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine.
Même les yeux fermés, j'vais pas ma charge.
Posé avec Louis et José Hood. Quand il est temps de manger, on joue du coude. Y'a du Gatorade bleu dans ma coupe. Y'a du Gatorade bleu dans ma coupe. J'voulais fit avec Bobby Sonnette. Être rapide comme Dominique Hachette. Même pas mal au dos, c'est une cross-check. Parce que j'ai mangé un bon repas, j'suis prêt. J'suis goulé le centre ou même le coach. Si j't'ai dit j'joue, c'est pour une bonne cause. Tu devrais regarder apprendre mes os. Fais-moi confiance, on fait qu'augmenter le niveau. L'arbre était sur les cigarettes de clown. Regarde dans la game, t'as l'air d'un ticoun. J'ai la vaillance de Steve Bégin. J'te plaque dans le monde, t'as la tête qui tombe. Quand j'suis sa glace, j't'un chevalier. Frisbee comme Vincent le cavalier. Et j'ai la chip de Jean, j'la rack. Plusieurs bagues, la coupe sonnée. Mon cœur c'est de la pierre comme Maxime. Toujours plus vite quand je patine. Watch out les moves. Quand j'me répète, je tartine. Petite bouchée divine. Petite bouchée coquine. Grignotine, grignotine. Après la game, nicotine.
Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine.
J'te laisse pas sur ta fin quand j'ai pas.
Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine.
On garde des boulettes dans la slot.
Grignotine.
grignotine, boulette, grignotine, grignotine, boulette, grignotine, grignotine, mion, mion, grignotine, grignotine, mion, mion, grignotine, grignotine.
Même les yeux fermés, je la fais ma chasse.
Cette année, Fouki, je le mets dans mon pool. D'ailleurs, ça va très bien pour Fouki. Fouki désir, plateau de fruits et ou grignotine. Yo, son mi grignotine.
Bonjour et re-bienvenue parmi nous. Encore un enregistrement à distance, dans le confort de mon chez-soi et pour la sécurité de tout le monde. C'est Charlotte, moi-même, qui va être avec vous pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Puis, on va explorer aujourd'hui la reprise du logement. Donc, c'est une grande exception dans le monde du droit du logement. Nos sources pour la capsule d'aujourd'hui sont le site internet du tribunal administratif du logement et le site internet d'Éducaloi. Donc, si vous avez jamais entendu le terme reprise de logement, ben vous allez peut-être un peu déstabilisé par la capsule au début. En principe, tout le monde le sait, c'est logique, si on respecte toutes les conditions de notre bail, ben on a le droit de rester dans son logement. Right? Eh bien, je vais vous dire que dans certaines situations, pour certaines raisons, certaines personnes ont le droit de prendre votre logement, dans le fond, de vous forcer à déménager. On tenait à vous expliquer ce concept parce qu'il y a plusieurs exceptions à la reprise du logement. Puis si on n'est pas au courant, ben, on peut se faire avoir assez facilement par des gens qui ne sont pas de bonne foi. On pense surtout là, à des situations des gens plus âgés qui deviennent confus à propos de leurs propres droits puis qui sont à voir. Mais quand on va commencer, vous allez voir, ça va peut-être devenir un peu moins flou. Donc, pour débuter, qui peut reprendre un logement et pour quelles raisons? Bon, donc, first off, c'est le propriétaire du logement que vous louez qui a le droit de reprendre son logement. Donc, il peut reprendre son logement pour soit y habiter lui-même ou il peut le reprendre pour ses parents ou ses enfants. Aussi, il peut le reprendre pour tout autre parent, donc un oncle, une cousine, etc., ou un allié. Puis un allié, ben, c'est quelqu'un qui devient de la famille à cause d'un mariage ou d'une union civile, donc une belle-mère, un gendre, de façon légale. Il peut aussi reprendre son logement pour un ex-conjoint après un divorce ou une dissolution d'union civile. Puis le locataire, donc pour le propriétaire qui va reprendre son logement pour un allié, tout autre parent autre que ses enfants et sa mère ou son père ou son ex-conjoint. Donc, le propriétaire qui reprend pour ces personnes-là, on doit s'assurer que c'est lui le principal soutien de cette personne-là. Donc, l'expression « principal soutien », il faut que ça soit interprété de façon large. C'est pas juste un soutien financier, ça peut être aussi même un soutien moral, psychologique, familial, social. Donc, je vous donne un exemple pour clarifier le tout. Si, par exemple, un couple marié se divorce et que l'ex-mari a immigré au Québec puis il n'y a aucune famille sur laquelle compter à part son ex-femme, puis il était homme au foyer. Ben, son ex-femme pourrait reprendre un logement dont elle est propriétaire pour loger son ex-mari. Aussi, ça doit être une personne physique qui est propriétaire de l'immeuble. J'explique, là, si c'est une compagnie qui est propriétaire de l'immeuble, ben, le gestionnaire ne pourrait pas reprendre le logement pour son fils, par exemple. La personne qui veut reprendre le logement doit être personnellement le propriétaire. En plus, si l'immeuble appartient à plusieurs propriétaires, ben, ils ne peuvent pas reprendre de logement à moins qu'il y ait deux propriétaires puis qu'ils forment un couple. Maintenant qu'on sait qui peut reprendre un logement et pour qui, on va explorer les exceptions à la règle. Oui, on aime beaucoup ça, les exceptions en droit, vous allez voir. Donc, le propriétaire ne peut pas reprendre un logement si son locataire ou le conjoint du locataire qui occupe ce logement-là, c'est une personne âgée de 70 ans ou plus. Et qui occupe le logement depuis au moins 10 ans. Cette personne doit avoir un revenu plus petit ou égal à celui qui lui permettrait d'être admissible à un logement à loyer modique. Donc, je vérifie. Puis pour l'année 2020, c'est à peu près 31 000 $ pour la région de Montréal. Donc, même si toutes les conditions de l'exception sont réunies, par exemple, on a une personne de 72 ans qui va à Montréal, qui est dans son logement depuis 12 ans puis qui a un revenu de 29 000 $ par année, ben, le propriétaire va quand même pouvoir reprendre son logement. Je sais, c'est compliqué un peu. C'est comme l'exception de l'exception. Donc, première exception à l'exception, si le propriétaire lui-même a 70 ans ou plus, il peut reprendre son logement. Deuxième exception à l'exception, si la personne destinée à habiter le logement repris, c'est une personne de 70 ans ou plus, le propriétaire a le droit de le reprendre. Puis dernièrement, si le propriétaire est âgé de 70 ans ou plus, qu'il habite déjà dans l'immeuble où le logement visé se trouve, le bénéficiaire du logement peut être âgé de moins de 70 ans. Donc, le bénéficiaire, c'est la personne qui va recevoir le logement. Donc, si le propriétaire habite déjà dans l'immeuble ou que la personne va déménager, puis que cette personne qui déménage là a moins de 70 ans, c'est quand même correct, tant et aussi longtemps que le propriétaire lui-même est âgé de 70 ans ou plus. Si vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez réécouter cette partie-là. C'est la partie la plus technique. On va passer au délai maintenant d'exécution. Bon. Donc, le locataire dispose de délais pour informer son locataire de sa volonté de reprendre le logement. Il y a trois situations possibles, parce qu'il faut aviser la personne, évidemment. On ne peut pas juste reprendre un logement comme ça. Donc, situation 1. Si le bail de la personne dure 6 mois ou moins, le propriétaire doit aviser son locataire au moins 1 mois avant la fin du bail. Deuxième situation, si le bail dure 6 mois ou plus, ce qui est la majorité des baux, le propriétaire va devoir donner un avis d'au moins 6 mois avant la fin du bail à son locataire. Et situation 3, si le bail n'a pas de durée déterminée, ce qui est parfaitement possible, le propriétaire doit donner un avis au moins 6 mois avant la date à laquelle il veut reprendre son logement. Donc, l'avis là, dont je parle, ça doit contenir la date prévue pour la reprise du logement, le nom de la personne pour qui le logement va être repris et, s'il y a lieu, le lien de parenté avec le propriétaire ou le lien avec le propriétaire, tout simplement. Prochaine étape, le locataire, il peut soit accepter ou refuser la reprise de son logement. S'il accepte, la procédure s'arrête là. Par contre, s'il refuse, le locataire, a 1 mois à partir de la date à laquelle il a reçu l'avis de son propriétaire pour faire connaître son refus. Et puis, si le locataire n'avise tout simplement pas son propriétaire, il oublie ou il veut pas lui dire qu'il refuse, mais ça équivaut à un refus quand même de quitter son logement. Quand le locataire donne son refus à son propriétaire ou que le délai de mois est expiré sans que le locataire donne une nouvelle, mais le propriétaire doit maintenant faire une demande au tribunal administratif du logement pour pouvoir reprendre le logement. La demande doit être dans le mois suivant le refus de son locataire de quitter son logement. Puis le propriétaire va devoir montrer au tribunal qu'il veut vraiment reprendre le logement pour les raisons qu'il va avoir décrites dans l'avis de reprise. Là, vous vous demandez sûrement, mais si le propriétaire a le droit de reprendre son logement et en fait me forcer à déménager, est-ce qu'on peut être dédommagé pour ça? Donc, réponse courte, c'est oui. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on laisse du temps au locataire avant la fin de son bail pour justement avoir le temps de se trouver un autre logement. À moins que le locataire s'entende directement avec son propriétaire pour les frais qui vont être remboursés, il faut faire une demande au tribunal pour avoir une compensation pour ces frais de déménagement. J'ai déjà été présente personnellement à des auditions au tribunal administratif du logement et justement, il y avait un cas de reprise de logement. L'atmosphère n'est pas super pour commencer. C'est pas des situations très faciles pour la personne qui doit se trouver un autre logement. Le juge peut aussi imposer des conditions au propriétaire si le juge autorise la reprise. Puis quand j'étais présente, il avait demandé au propriétaire de rembourser les frais de déménagement et aussi le coût de rebranchement pour les services de télévision et Internet. Donc, dernier point important que nous trouvons pertinent à mentionner pour la reprise de logement, c'est la mauvaise foi. Oui, partout dans la vie, il va toujours y avoir des gens pas très gentils qui prennent avantage de la loi en place, des dispositions possibles. Plusieurs cas qui sont présentés devant le tribunal administratif du logement en matière de reprise du logement, ça a souvent le sujet de mauvaise foi du propriétaire. Les locataires apprennent des fois que leurs propriétaires reprennent leur logement pour le rénover, puis vendre l'immeuble, ou simplement pour pouvoir augmenter le loyer et le louer à quelqu'un qui va être prêt à payer plus cher. Toutes ces situations-là sont pas autorisées par la loi. Puis si le propriétaire a transmis un avis de reprise de logement, il y avait un nom sur cet avis-là, une personne dans l'avis du propriétaire qui allait occuper le logement ou le propriétaire lui-même prétendait emménager dans le logement. Donc, si le locataire se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre là, qui est en train de se passer, bien, il peut faire une demande au tribunal pour récupérer une compensation pour ses pertes. Le locataire peut aussi demander de se faire verser par le propriétaire des sommes supplémentaires pour le punir à cause de son mauvais comportement. Que le locataire ait consenti à la reprise du logement ou qu'il ait dit au propriétaire qui refusait de céder son logement, il peut, dans les deux cas, s'adresser au tribunal s'il pense que son propriétaire a repris son logement de mauvaise foi. Donc, c'est sur ce que se conclut la capsule pour la reprise du logement. Je vous le concède, c'est une capsule un peu plus complexe que d'habitude, peut-être un peu plus technique. J'espère que j'ai été assez claire pour vous et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine, mois, etc. Merci de votre écoute. Au revoir.
Bonjour. Donc, on commence cette capsule sur le droit du logement en vous parlant aujourd'hui d'un sujet bien intéressant, mais toutefois particulier, le cannabis. Depuis la légalisation du cannabis à titre récréatif au Canada, qui est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, plusieurs normes ont dû être adaptées dans divers secteurs du droit. Le droit du logement, c'est l'un d'entre eux. Ce secteur a été impacté par la légalisation du cannabis, autant du côté des locataires que celui des locataires, qui ont tous deux vu certains de leurs droits et obligations être modifiés. Voici donc une capsule dans le but de vous résumer les éléments principaux à retenir quant à la légalisation du cannabis à titre récréatif en droit du logement. La légalisation du cannabis au Canada étant encore assez récente, ce ne serait pas surprenant de voir une évolution des normes par rapport à la marijuana, ainsi que beaucoup de contestations là, devant le tribunal administratif du logement par les locataires et les locataires par rapport aux conflits que peuvent créer la légalisation du cannabis. Premièrement, il est important de savoir que bien que devenu légal, le cannabis récréatif est encadré de nombreuses normes assez strictes qu'il vaut mieux connaître pour éviter les ennuis, que ce soit en tant que locataire ou locateur. À titre indicatif, les amendes en vigueur prévues par la loi encadrant le cannabis concernant certaines infractions liées au cannabis et qui sont pertinentes pour cette capsule sur le droit du logement seront mentionnées. Tout d'abord, la loi interdit aux personnes de moins de 21 ans de posséder du cannabis ici au Québec. Donc, bien qu'une personne puisse signer un bail bien avant l'âge de 21 ans, il n'en reste pas moins que la possession de cannabis reste illégale jusqu'à 21 ans, que ce soit dans son logement ou n'importe où ailleurs. Toute personne de moins de 21 ans en possession de cannabis est passible d'une amende de 100 $. Donc, bien qu'au Canada, il soit possible de cultiver de 1 à 4 plants de cannabis pour des fins d'utilisation personnelle unique. Au Québec, la culture de cannabis récréatif est interdite par la loi. Un locataire pourrait donc pas faire pousser quelques plants de marijuana dans sa cuisine là, pour son plaisir personnel. Contrevenir à cette norme peut donner lieu à une amende entre 2 500 $ et 750 $ et pouvant aller jusqu'à 1 500 $ en cas de récidive. Au niveau de la possession, c'est aussi important de noter qu'il est illégal de posséder plus de 150 grammes de cannabis récréatif dans une même résidence, et cela peu importe le nombre de personnes qui y vivent. Donc, le fait d'habiter dans un logement avec 4 personnes versus 2 personnes, par exemple, ne va pas permettre aux individus occupant un logement avec plus de personnes de posséder une quantité plus élevée de cannabis. C'est vraiment par résidence là, qu'on applique le 150 grammes maximum. Une infraction à cette norme est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ et de 500 $ à 1 500 $ en cas de récidive. Bien entendu, la vente de cannabis par un locataire est également illégale puisque de toute façon, seule la SQDC est autorisée à vendre du cannabis au détail au Québec. De plus, si un locataire réside dans un logement comportant des aires communes, il est illégal d'y fumer du cannabis à moins qu'un fumoir fermé autorisant d'y fumer de la marijuana y soit installé. Comme mentionné dans l'une de nos capsules précédentes sur la discrimination, un locataire a le droit d'inclure au bail une clause interdisant de fumer la cigarette ou le cannabis à titre récréatif. Quand la protection contre la fumée secondaire a été reconnue comme étant un objectif légitime et important pour notre société, c'est justifié pour un propriétaire d'inclure de telles clauses, autant pour le tabac que pour le cannabis, qui ne peuvent être considérées comme de la discrimination. Au niveau des troubles de voisinage, même dans le cas où un locataire permet au locataire de fumer dans leur logement, les locataires doivent tout de même faire attention de ne pas déranger les autres locataires et de ne pas troubler leur jouissance avec l'odeur et la fumée secondaire qui peut être dégagée là, par le cannabis, autant récréatif, mais également pour le cannabis thérapeutique. Une contravention à ces obligations pourrait exposer le locataire à diverses sanctions, pouvant même aller là, jusqu'à la résiliation de son bail. Par exemple, dans le jugement Chassé contre Chartier, le propriétaire était devant le tribunal administratif du logement pour une demande de résiliation de bail. Le motif de sa demande de résiliation, c'était que le locataire, qui était situé à l'étage du haut, fumait de façon régulière du cannabis et l'odeur ainsi que la fumée secondaire envahissait le reste du duplex, dont le logement du bas où habitait un couple d'aînés. Ces derniers dénonçaient entre autres le sentiment d'étouffement qu'ils ressentaient causé là, par l'odeur du cannabis que le locataire du haut fumait. Donc en gros, leur jouissance là, de leur logement n'était pas, elle était brimée par l'odeur du cannabis et la fumée secondaire et c'était là, de façon régulière, là, plusieurs fois par jour. Le locataire fumeur précisait de son côté fumer du cannabis thérapeutique avec prescription médicale à l'appui. Ce dernier prétendait également que son droit à la vie privée protégeait son droit de fumer du cannabis dans son propre logement chez lui. Le tribunal devait donc se positionner à savoir si le bail pouvait être résilié, même s'il était ici question là, d'utilisation de cannabis thérapeutique. Donc, le tribunal en est venu là, à la conclusion et a tranché en faveur du locateur en se référant entre autres aux règles de bon voisinage prévues au Code civil du Québec. C'est clair dans la situation que le fait pour le locateur de fumer de 7 à 8 fois par jour excède le seuil d'inconvénients normaux auxquels les voisins sont tenus de tolérer. Donc, la fumée et l'odeur intense que dégage le cannabis troublaient gravement la jouissance des autres locataires. De plus, le tribunal ajoutait comme quoi la Cour suprême du Canada a déjà statué par le passé comme quoi le fait de fumer du cannabis à l'intérieur d'un logement est un choix par rapport à son mode de vie et ne peut donc constituer un droit protégé. Le bail a donc été résilié et le locataire fautif évincé. Donc, qu'est-ce qui est important de revenir ici, là, c'est que on ne peut pas, dans ce cas-là, là, plaider le droit à la vie privée pour parler de son droit de fumer dans son logement quand on est un locataire, surtout s'il y a d'autres locataires autour que ça vient déranger là, dans leur jouissance des lieux. Et de plus, que ce soit thérapeutique ou récréatif, la consommation de cannabis, dans les deux cas, ça peut mener à une résiliation de bail. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à une nouvelle capsule balado droit au logement. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui porte sur le bruit et le logement. Une des problématiques les plus courantes dans le cadre du logement où plusieurs locataires vivent à proximité les uns des autres est la jouissance paisible des lieux. Le bruit fait par les voisins, le va-et-vient continuel dans l'immeuble, les claquements de portes, une musique trop forte, tout cela peut être vécu comme un véritable cauchemar par certains locataires. Dans un premier temps, nous allons essayer d'identifier les responsabilités du propriétaire et du locataire relativement au bruit. Dans un deuxième temps, nous allons passer en revue quelques décisions du tribunal administratif du logement pour avoir une idée de ce que les tribunaux considèrent comme bruyant. Alors, quelles sont les obligations du propriétaire et du locataire? En principe, le propriétaire est tenu de délivrer au locataire la jouissance paisible du logement pendant toute la durée du bail. Il s'agit là d'une obligation de résultat du propriétaire envers le locataire. En contrepartie, le locataire doit payer son loyer, bien sûr. Par conséquent, il suffit de constater le trouble subi par le locataire pour que la responsabilité du propriétaire soit présumée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il reviendra au propriétaire de se dégager de la responsabilité du trouble occasionné. Si le bruit cause des problèmes importants, un locataire pourrait obtenir une réduction de loyer ou une résiliation de son bail. Le locataire troublé pourrait aussi obtenir des dommages-intérêts du propriétaire si celui-ci, après avoir été informé des troubles, n'agit pas pour faire cesser la nuisance sonore. Cependant, si le locataire est troublé par un tiers, c'est-à-dire quelqu'un qui n'habite pas dans l'immeuble et qui échappe donc au contrôle du propriétaire, le propriétaire ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés aux locataires. Il faut aussi préciser que les locataires doivent pouvoir supporter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance suivant les usages locaux. La question qui se pose souvent, c'est donc de savoir si les bruits dont se plaint un locataire sont normaux ou anormaux. Alors, nous allons passer en revue quelques jugements du tribunal administratif du logement. Alors, il faut noter qu'en règle générale, le TAL, le tribunal administratif du logement, analyse le comportement du locataire en examinant des critères objectifs. Le TAL cherche ensuite à savoir si le bruit occasionné par un locataire ou un propriétaire habitant l'immeuble, si ce bruit-là constitue une atteinte grave, excessive ou déraisonnable qui pourrait justifier la résiliation du bail. Ce test de l'atteinte grave, excessive ou déraisonnable est important parce que, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, chaque locataire doit pouvoir subir les bruits normaux inhérents à la vie quotidienne en société. Alors la première décision du tribunal que nous allons examiner, c'est la décision Laglois contre Allard, qui date de 2020, donc toute récente. Dans la décision Laglois contre Allard, un locataire se plaint de son voisin. Ils sont tous deux locataires d'un logement différent dans le même immeuble. Laglois estime que Allard fait du bruit en claquant la porte de son patio, il écoute de la musique trop fort et il fait des barbecues jusque tard dans la nuit. Laglois a réclamé une diminution de loyer rétroactive de 50% plus des dommages intérêts de 1 000 $ au propriétaire. Alors le tribunal fait témoigner le propriétaire et ce témoignage révèle qu'il avait tenté de parler au locataire fautif à plusieurs reprises mais que ses tentatives ont été infructueuses. Et puis, il a finalement obtenu l'éviction du locataire fautif pour non-paiement de loyer. Cependant, par égard à la conjointe du locataire fautif, qui était enceinte, le propriétaire a dû attendre 2 mois avant d'exécuter l'acte d'éviction. Voilà pour les faits. Le tribunal a conclu que le bruit occasionné par le locataire fautif n'était pas continu, donc que les claquements de porte, la musique forte et les barbecues nocturnes ne se sont pas produits de manière ininterrompue. Le tribunal a tout de même accordé au locataire plaignant un montant de 100 $ par mois à titre de diminution de loyer. Cependant, aucun montant à titre de dommage moral n'a été accordé car le tribunal n'a pas estimé que le locataire prétendument fautif a commis une faute. Une autre affaire, c'est l'affaire Mina contre Riel qui date de 2020. Dans cette affaire, le locataire poursuit son propriétaire et lui demande de faire en sorte que la jouissance paisible de son logement soit respectée. Le locataire plaignant est exaspéré par le bruit de la famille voisine qui habite le même immeuble et qui a le même propriétaire que lui. De manière plus précise, il se plaint du bruit qui provient d'une musique trop forte et surtout du bruit que font les enfants, des voisins, qui, selon lui, jouaient en criant et en courant dans l'appartement et il estimait que ce va-et-vient était constant, continuel. Pour ces raisons, le locataire réclamait une diminution de loyer rétroactive de 20%. Avant de faire sa demande auprès du tribunal, le locataire plaignant avait envoyé plusieurs mises en demeure au propriétaire et celui-ci a averti à plusieurs reprises les locataires prétendument bruyants. Plus que ça, après un certain temps, le propriétaire a même réussi à leur trouver un nouveau logement un peu plus d'un an après la première mise en demeure. Alors, qu'a décidé le tribunal ? Le tribunal a donné raison au propriétaire en jugeant que le bruit des enfants est généralement considéré comme un bruit normal et que, par conséquent, il fallait savoir faire preuve de tolérance. Cependant, le tribunal a aussi reconnu que les locataires n'ont pas à accepter que la jouissance paisible de leur logement soit compromise au point qu'ils ne peuvent plus jouir paisiblement des lieux loués. En prenant en compte cette perte de jouissance, le tribunal a donc décidé d'octroyer la somme globale de $600 aux locataires plaignants. Alors, il faut bien prendre la peine de préciser que ces deux décisions que nous avons citées sont à titre d'exemple seulement et qu'elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour prédire ce qu'il pourrait vous arriver dans une cause similaire que vous avez déposée ou que vous prévoyez de déposer auprès du tribunal administratif du logement. Chaque situation est un cas d'espèce, c'est-à-dire que chaque situation repose sur des faits qui lui sont propres et qu'il n'est pas possible de généraliser. Alors maintenant que nous avons dit ça, on peut tout de même énoncer quelques principes qu'il faut retenir. Alors de manière générale, malgré la nervosité, l'anxiété que peut engendrer la situation de vivre un désagrément sonore, il est très très important de communiquer avec son propriétaire de manière calme. Ça peut paraître banal à dire, mais rappelons-le. Donc, garder les lignes de communication ouvertes est essentiel. Si un propriétaire reçoit une plainte de la part d'un locataire troublé par le bruit occasionné par un autre locataire, le proprio devra agir sans délai. Et s'il n'agit pas rapidement, le locataire troublé pourra le poursuivre en dommages-intérêts. Par conséquent, suite à la dénonciation d'un trouble de jouissance du logement, le propriétaire doit remédier au problème avec diligence. Il a tout intérêt à agir sans délai. Et qu'est-ce qu'il devra faire ? Eh bien, il devra mettre en demeure le locataire qui trouble les lieux et il devra lui dire de cesser immédiatement tout comportement fautif qui occasionne des bruits. Et en l'absence d'amélioration, et si le locataire fautif continue de troubler la tranquillité des lieux, le proprio pourra alors introduire un recours en résiliation du bail du locataire fautif. Voilà pour les principes généraux. Alors nous nous retrouverons tout à l'heure pour des questions-réponses avec mes charmantes collègues Catherine et Charlotte. À tout à l'heure.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada de l'Université de Sherbrooke. Les étudiants de Pro Bono Students Canada ne sont pas avocats et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate. Donc, bonjour, on se rejoint encore une fois pour notre capsule un peu tout ce qui. C'est Charlotte en compagnie d'Amine et de Catherine. Donc, ils sont ici. On est encore à distance, malheureusement. On n'est pas encore dans les locaux de la radio pour la sécurité de tous. Voilà, on fait ça à partir de la maison pour vous aujourd'hui, encore une fois. On espère pour le bien-être de tous qu'on puisse se rejoindre la prochaine fois en vrai. On l'espère pour la qualité du son également. Donc, pour commencer notre capsule un peu tout ce qui, moi, j'ai repéré une histoire vraie qui s'est déroulée en 2018, toujours en lien avec le droit du logement. Puis je la trouvais quand même un peu drôle, fait que j'avais envie de vous la partager. Puis en fait, ça commence en 2016, là, les faits, puis en 2018, ça a été devant le tribunal. Donc ça se déroule dans un immeuble. Il y a un nouveau locataire qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'il entend du bruit au-dessus de lui. Puis plus précisément, ben le fait qu'il entende les ronflements de sa voisine en haut, ça fait qu'il est pas capable de dormir. Fait qu'imaginez à quel point là, la voisine a ronflé fort ou que les murs étaient trop minces. Là, imaginez le bruit que ça faisait. Donc, c'était un volume excessif de ronflement, puis la personne était incapable de dormir, fait qu'il a appelé son propriétaire, puis son propriétaire, lui, a contacté la personne qui ronflait trop fort. Puis dans le fond, il va la mettre au courant de la situation, il va lui dire « tu ronfles un peu trop fort », puis il essaie de faire attention. Je sais pas trop comment tu dis d'essayer de faire attention à quelqu'un de pas ronfler trop fort, mais bon. Eh bien, le phénomène va se reproduire plusieurs fois encore pendant des mois, puis le propriétaire va même aller lui porter des médicaments pour essayer de réduire ses ronflements, puis il va même lui donner une feuille de rendez-vous pour aller voir un médecin. Ça vous montre à quel point c'était devenu assez problématique. Puis le propriétaire avait aussi écrit pour voir si elle avait fait un suivi, si elle avait pris un rendez-vous finalement. Puis la madame en question, bien, elle va se sentir un peu trop visée là, par le propriétaire. Elle va prendre les gestes du propriétaire un peu comme du harcèlement. Elle croit qu'il est un peu trop impliqué dans sa vie. Essayer de contrôler la façon comment elle respire. Bon, le propriétaire, il est un peu découragé. Puis il répond par une mise en demeure. À un moment donné, ça suffit. Il va falloir régler vos problèmes de ronflement, madame, parce que là, ça commence à déranger tout le monde. Puis la situation ne change pas après la mise en demeure, puis le propriétaire, ben, il va finir par déposer une demande devant le tribunal administratif du logement pour résilier le bail de madame. Puis, ben, ça finit pas là. La madame, elle, ben, elle veut faire baisser son loyer parce qu'elle qualifie les actions de son propriétaire comme du harcèlement, puis qu'elle en a fait une dépression, puis elle a dû être en arrêt de travail pendant 3 mois. Le juge de leur procès, bien, il était d'accord avec le propriétaire. Les actions de celui-ci, ce n'était pas du harcèlement. Là, il voulait vraiment juste essayer de résoudre la situation pour permettre aux autres locataires de pouvoir vivre, dormir sans avoir à entendre quelqu'un ronfler très, 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 très fort. Puis le juge, bien, il a dit qu'il y avait bel et bien lieu d'aller consulter un médecin puis que la demande du propriétaire était justifiée puis c'était pas exagéré comme demande. Finalement, le propriétaire, bien, il a retiré ses demandes au dernier moment, donc il s'est retiré du procès. Puis la madame, elle a pu rester dans son logement sans avoir de réduction de loyer, bien sûr. Fait qu'on ne sait toujours pas quelles conditions ont été imposées pour que tout le monde puisse dormir sur leurs deux oreilles dans cet immeuble-là. Mais bon, ça s'est conclu un peu en queue de poisson. Donc voilà l'histoire un peu farfelue de la madame qui ronfle trop fort. Ça s'est vraiment passé, c'est une histoire vraie.
C'est une drôle d'histoire, ça, Charlotte, ouais, mais ouais, merci ouais. beaucoup de l'avoir partagé avec nous.
Voilà.
Alors, une question pour toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe si notre propriétaire veut reprendre son logement pour s'y loger, mais qu'un autre logement se libère entre-temps?
Ça, c'est un peu une question en lien avec la capsule que j'avais faite sur la reprise du logement. Donc, oui, cette situation-là, ça se peut, ça s'est déjà produit. C'est souvent le cas quand le propriétaire est propriétaire de plusieurs immeubles, donc il va essayer de reprendre le logement de quelqu'un en particulier pas de quelqu'un en particulier pour le persécuter, là, mais parce que le logement qu'il convoite, c'est celui-là pour des raisons particulières. Si on a reçu un avis de reprise de logement, puis plus tard, on apprend qu'un autre logement va devenir vacant dans le même immeuble ou au même moment que votre logement devrait être pris. Si le logement en question est sensiblement le même, puis que le loyer est similaire au vôtre, puis qu'il se trouve dans les environs, mais en fait, le propriétaire va devoir, en principe, occuper ce logement-là qui va devenir libre à la place du vôtre, puis vous faire déménager. Donc, vu que la situation, en fait, serait plus simple pour lui d'aller seulement déménager dans le logement vacant, ben c'est la situation qui devra être imposée, en fait.
Bien, super. Merci, Charlotte, pour les histoires farfelues et les informations. Pour ma partie de la capsule questions-réponses, j'ai décidé de vous partager 2 mises en situation qui ont rapport avec également là, la capsule que j'ai faite plus tôt cette semaine. Donc, on est dans un contexte post-pandémie. Roger est propriétaire d'un duplex sur le bord de l'eau, mais malheureusement, depuis les inondations fréquentes là, des dernières années, Roger s'est rendu compte que le duplex se trouvait dans une zone avec un fort risque d'inondation. Malgré cela, le duplex se loue très bien à chaque année. Jeanne et Simon sont, entre autres, locataires de l'étage du bas du duplex, tandis que Roger habite à l'étage du haut. Jeanne et Simon partent toujours en vacances 2 semaines au printemps. C'est pour ça que je voulais bien mentionner qu'on était dans un contexte post-pandémie, parce que malheureusement, là, partir en vacances 2 semaines au printemps ou à la semaine de relâche, là, c'est plus quelque chose d'aussi facile qu'avant. Donc, comme ceux-ci sont en voyage à Cuba, leur logement est inondé à cause de la montée des eaux et les locataires ne sont pas joignables. Est-ce que Roger, qui est propriétaire et en plus de ça, il habite, lui, dans le fond, également dans le duplex, mais à l'étage du haut, donc de son côté, il n'est pas inondé parce qu'il ne veut pas, il n'est pas au rez-de-chaussée. En tant que propriétaire, est-ce qu'il peut entrer chez eux sans leur donner d'avis au préalable? Oui, ici, on comprend qu'il s'agit vraiment d'une urgence. Donc, dans de telles situations, le propriétaire a le droit d'entrer dans le logement sans donner le classique avis de 24 heures au préalable, qui est souvent requis dans des situations non urgentes. Par contre, Roger ne pourrait pas entrer là, pour un prétexte accessoire, par exemple, pour admirer la nouvelle peinture que Simon et Jeanne ont accrochée dans leur salon. Là. Ça ne serait pas une bonne raison d'entrer sans les avertir dans le logement.
On ne veut jamais que ça nous arrive, ça. On part en voyage puis qu'on revienne puis que notre logement est inondé. Oh mon Dieu, okay, je n'ose même pas imaginer. Deuxième mise en situation pour toi, Catherine. Si Maryse, qui vit dans un immeuble qui comporte plusieurs logements locatifs, puis il y a plusieurs aires communes qui sont disponibles pour les locataires, comme un gym, une piscine, un salon, une salle de billard et plus encore. Maryse prend du cannabis à des fins thérapeutiques. Est-ce qu'elle va avoir le droit de fumer dans ces aires communes-là?
Donc, pour répondre à ta question, là, vraiment ici, on se rend compte qu'à des fins thérapeutiques ou à des fins récréatives, ça serait la même réponse. La réponse, c'est non. Comme la protection contre la fumée secondaire a été reconnue comme étant un objectif légitime et important pour notre société, un propriétaire est tout à fait dans ses droits là, de refuser que les locataires fument dans son immeuble. Même dans un cas où il serait permis pour Maryse de fumer dans son propre logement, donc il n'y aurait pas de clause l'empêchant de fumer vraiment dans son espace locatif à elle, elle ne doit pas tenir là, pour acquis qu'elle peut le faire dans les aires communes parce que ça pourrait nuire à la jouissance paisible de l'immeuble par les autres locataires qui, eux, ne vont pas nécessairement apprécier là, l'odeur et la fumée qui se propagent par la consommation de cannabis. Donc, il en va de même avec la cigarette. Là. Un propriétaire peut tout autant restreindre par des clauses au bail ou des règlements d'immeuble les locataires de fumer dans les aires communes et même dans leur propre logement. Donc, c'est une très bonne question. Merci, Charlotte.
Bon, Amine, c'est à ton tour de répondre à des questions. Donc,
je suis là.
Oui, je vais t'en poser une. Donc, si, par exemple, le propriétaire va recevoir des plaintes croisées, donc c'est deux locataires qui vont se plaindre du bruit que fait chacun, est-ce que le proprio peut rester sans rien faire puis attendre que, dans le fond, l'affaire se règle par elle-même?
Alors non, pas du tout. Le propriétaire devra être proactif, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas rester les bras croisés. Il va inviter chacun de ses locataires à la raison et il pourrait très bien demander la résiliation du bail de chacun et déposer une demande auprès du tribunal administratif du logement qui alors prendra une décision en fonction de la preuve qui lui sera présentée. Donc non, il ne peut pas du tout rester les bras croisés. Il va dans un premier temps les inviter à la raison, donc à se parler. Et puis après, si ça ne marche pas, il pourra demander soit la résiliation du bail, soit déposer une demande auprès du tribunal. Et comme c'est le proprio qui va instituer une demande en résiliation de bail, ça sera à lui ou à elle de prouver que la dispute entre ses locataires a causé une atteinte grave à ses droits. Et donc, c'est lui qui aura, on dit, le fardeau de la preuve. Ce sera à lui de démontrer que ses droits ont été atteints.
Bien, merci beaucoup pour l'information. Est-ce que tu es prêt pour une deuxième petite question?
Je t'écoute.
Parfait. Donc, si un locataire plaignant déposait un recours en diminution du loyer auprès du tribunal administratif du logement contre son propriétaire, comment est-ce que le propriétaire pourrait, lui, se protéger?
Tout simplement, eh bien, l'une des possibilités, c'est de déposer une demande en résiliation du bail contre le locataire fautif qui a fait du bruit. Mais il faut préciser que ceci ne va pas annuler la procédure et qu'il faudra tout de même que le propriétaire se défende contre le recours en diminution de loyer déposé par le locataire plaignant. Alors, pour rebondir sur ça, une dernière question que beaucoup se posent. Alors, on a beaucoup parlé de recours contre le bruit, mais quels bruits sont tolérés ? Alors, on l'a dit plusieurs fois dans la capsule qui porte sur le bruit et le logement, les locataires doivent pouvoir supporter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance. Cette disposition est prévue dans le Code civil du Québec. La question, c'est donc de savoir si les bruits dont se plaint un locataire constituent un inconvénient normal ou anormal. Par exemple, si un bébé pleure bruyamment et empêche les voisins de dormir, ou si des enfants courent et s'amusent dans l'appartement, on considérera ces bruits normaux. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans l'une des décisions qu'on a expliquées. Cependant, même si les bruits du voisinage peuvent et doivent être tolérés dans une certaine mesure, il n'est pas impossible d'imaginer que le tribunal administratif du logement puisse résilier un bail ou octroyer des dommages-intérêts si les faits portent à croire qu'il était question de bruit excessif ou déraisonnable. Donc, en bref, il est très important de souligner que chaque cas est un cas d'espèce et que les faits de chaque affaire sont propres à cette affaire et aux circonstances particulières dans lesquelles ils sont nés.
Imagine, Ami, l'idée de faire un party tous les jours de la semaine jusqu'à minuit avec des grosses caisses de son. Là.
Non, ça, évidemment, ça comptera comme un bruit anormal puisqu'il porte atteinte au droit qu'a chaque locataire de pouvoir jouir d'un logement paisible.
De toute façon, on s'entend que ce n'est pas dès demain là, qu'on pourra recommencer à faire des petites fêtes dans des appartements.
Non, ça c'est sûr, c'est une autre histoire.
Bon, mais parfait, c'est sûr, cette triste réalité qu'on se laisse. Donc, on se retrouve pour une dernière fois, en fait, dans une autre capsule sur le droit du logement. Ça conclut celle-ci. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se souhaite à la prochaine.
Merci Charlotte, à bientôt tout le monde.
Merci à vous, au revoir.